France Culture.
Bienvenue à toutes et à tous Douce France, une heure pour raconter la France dans toutes ses nuances.
Je sais pas de quoi ils ont peur. On n'a jamais dit qu'on allait casser quelque chose, on n'est pas des black blocs. On demande seulement d'avoir un rendez-vous pour supprimer la surtransposition, c'est-à-dire ne pas avoir des normes franco-françaises contre les agriculteurs. On est vraiment dans le dur.
Nous avons dit très clairement que manifester, c'est un droit. Exprimer sa détresse, sa colère, ses attentes, ses revendications, c'est quelque chose qu'il faut entendre. C'est ce que je fais depuis 4 mois, en permanence. Ils avaient dit, nous voulons bloquer Paris. Non, ouais. On ne bloque pas Paris. Le mouvement de la coordination rurale, c'est le seul syndicat qui est aujourd'hui présent, à la fois en Île-de-France et sur l'agglomération lyonnaise. Nous avons en France 400 000 agriculteurs. 200 agriculteurs sont aujourd'hui mobilisés. Nous leur avons toujours dit pas de violence, pas de blocage, ne pas s'en prendre ni aux biens ni aux personnes.
C'était début janvier, la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire Annie Genevard répond aux questions de Maxime Switek sur BFM TV. Quelques heures auparavant, des agriculteurs de la coordination rurale étaient empêchés d'atteindre Paris par les forces de l'ordre. Un nouveau coup de semonce d'une partie du monde agricole en ce début d'année. Les promesses de soutien non tenues, la censure du gouvernement Barnier ou encore la signature de l'accord de libre-échange de l'Union européenne avec le Mercosur, malgré les réticences françaises, ont fini d'alimenter la colère de la corporation. Défilé de tracteurs, déversement de fumier devant les préfectures, permanence de députés murés comme celle de François Hollande à Tulle ou de Boris Vallot dans les Landes, tous deux socialistes et dénoncés pour avoir voté la chute de Michel Barnier. Cette semaine encore, les militants de la coordination rurale ont attaqué une vingtaine de sites de l'Office français de la biodiversité. En réponse à une déclaration d'un syndicaliste de l'Office comparant les agriculteurs à des dealers, je cite, qui refusent l'accès de leurs exploitations aux services de contrôle. Déjà, début 2024, les agriculteurs avaient largement manifesté leur malaise. Un malaise qui dure et qui risque bien d'avoir de lourdes conséquences dans les élections qui se tiennent encore jusqu'à fin janvier dans les chambres d'agriculture. Pourquoi tant de tensions? Faut-il y voir un symptôme d'un malaise croissant du monde paysan ou un rapport de force entre syndicats agricoles dans ce moment électoral historiquement ouvert? Comment lire cette défiance vis-à-vis des autorités accusées d'abandonner les agriculteurs sacrifiés sur l'autel du libéralisme et du libre-échange au sommaire de Douce France, du sud-ouest à la Bretagne, quand les agriculteurs votent? Venez, je vous emmène. Bonsoir François Pursaigle.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sociologie à l'Institut National Polytechnique de Toulouse, chercheur associé au Centre de Recherche Politique de Sciences Po. Vous avez signé « Une agriculture sans agriculteurs, la révolution indicible ». Ça a apparu aux presses de Sciences Po en 2022 avec Bertrand Hervieux et « Sociologie des mondes agricoles ». Vous êtes donc co-auteur aussi avec Bertrand Hervieux de cet ouvrage paru chez Armand Collin en 2013. Bienvenue à vous. Et en duplex de Rennes, Véronique Lucas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue à l'INRAE Bretagne, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Alors à l'INRAE, on a plutôt tendance à penser qu'il y a des ingénieurs agronomes, mais il y a aussi des sociologues et vous travaillez, vous accompagnez notamment les structures qui travaillent avec les agriculteurs. Bienvenue à vous. Alors, peut-être première question, François Pursaigle, en entendant à l'instant Annie Genevard se plaindre des positions de la coordination rurale en disant après tout ils sont 200 sur 400 000, ils ont voulu bloquer Paris, faire des actions spectaculaires. Est-ce qu'ils sont à ce point non représentatifs ?
C'est très difficile aujourd'hui de parler de représentativité dans des mondes agricoles qui sont particulièrement fragmenté, non seulement sur le plan des structures d'exploitation, mais également sur le plan idéologique. Faire face au monde agricole, c'est faire face finalement à des minorités qui, socialement, économiquement, ne vivent plus les mêmes choses. Les écarts de revenus dans cette profession, si tant est qu'on puisse parler de profession, dans ces professions vont de 1 à 5. Et le rapport à l'État, le rapport à l'organisation professionnelle va plus de de soi systématiquement, et on voit que bien des franges de cette population peuvent s'émanciper. C'est vrai de la coordination rurale, c'est vrai de la Confédération paysanne, mais c'est vrai aussi de groupes autonomes. On l'a vu au sud de Toulouse durant l'acte 1 des mobilisations agricoles.
Donc début 2024, on entendait effectivement beaucoup, les syndicats sont dépassés par la base. Et on nous rappelait les gilets jaunes, par exemple.
Alors, pour moi, ça n'a strictement rien à voir.
D'accord.
Je pense que ce mouvement-là est un mouvement de patrons, de petits patrons qui parfois se sentent déclassés, mais surtout c'est un mouvement d'artisans, parce qu'ils le sont parfois, de commerçants pour les autres, de gestionnaires de patrimoine ou de capitaines d'industrie. On a derrière l'adjectif agricole finalement des réalités plurielles qu'on a du mal à cerner, et puis on assigne très souvent finalement aux agriculteurs des images qui ne correspondent plus forcément à ce qu'ils sont et à ce qu'ils veulent être. Et cette gronde, parce que c'est pas forcément une crise que traverse le monde agricole. Vous avez un certain nombre de secteurs, de filières, je pense à la filière lait, à la filière porcine, voire même bovine, qui ne sont pas forcément caractérisés par des situations de crise, comme on peut le voir en viticulture ou comme on peut le voir aussi dans d'autres secteurs. Les choses sont beaucoup plus compliquées. Mais on voit bien quand même que les politiques, pour revenir à votre question initiale, ont du mal à se saisir de cette pluralité. La diversité, elle incarne, elle illustre, elle est illustrée par l'histoire de la profession agricole, mais elle se joue aujourd'hui différemment, elle se joue à travers des appartenances syndicales différentes. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour les politiques, parce que finalement...
Oui, parce que jusque-là, on était plutôt dans une forme de co-gestion avec la FNSEA, historiquement.
Tout à fait. Et puis, la France agricole était une France relativement homogène en termes de structure d'entreprise. Aucune tête ne dépassait. Et là, finalement, beaucoup de têtes dépassent de cette masse agricole.
Et dans ce pluralisme, dans cette diversité, Véronique Lucas, il y a aussi ce contexte électoral qui joue, selon vous ?
Oui, alors un contexte électoral qui en fait dure depuis un an. Le fait que ces premières mobilisations début 2024 qui ont été médiatisées, il y a régulièrement des mobilisations agricoles, mais celle de début 2024, hors des syndicats, fortement médiatisées, comme elles étaient un an avant les élections professionnelles que sont les élections pour les chambres d'agriculture, les syndicats se sont empressés très vite de reprendre l'initiative pour ne pas se laisser déborder et maîtriser les termes du débat. Et ce qui fait qu'on a finalement une pré-campagne électorale qui s'est déroulée sur un an, qui tranche avec les précédentes élections professionnelles aux chambres d'agriculture, où la campagne électorale était beaucoup plus courte, beaucoup plus dans l'entre-soi agricole. Là, on a une pré-campagne depuis un an, largement médiatisée par les organes de presse généralistes, donc moins maîtrisée aussi par les syndicats. Donc ça change assez totalement la configuration de ce qu'on a pu voir précédemment.
Mais alors, ce qui veut dire, Véronique Lucas, vous entendant, que ces campagnes à bas bruit jusque-là, aujourd'hui se font à ciel ouvert au vu de la fragmentation dont nous parlait François Purseigle et de cette diversité qui est en train de s'incarner, puis on l'entendra aussi avec des paroles d'agriculteurs, des fractures de modèles qui sont profonds. Mais il y a aussi l'actualité, c'est cette montée des crises, donc vous le disiez, l'acte 1 l'année dernière, mais le Mercosur, les réponses des gouvernements successifs qui n'ont pas forcément été suivies des faits. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi une forme d'instrumentalisation, diriez-vous, peut-être que le mot est un peu fort, mais à tout le moins, de capacité à s'organiser sur ces moments qui interpellent aussi le débat public.
Oui, le fait aussi que c'était avant les élections européennes et que du coup il y a eu un empressement aussi des différents camps politiques à venir auprès des agriculteurs pour les écouter et pour montrer qu'elles étaient considérées. Tout ça, ça a aussi du coup redonné du carburant à ces mobilisations et fait durer beaucoup plus l'événement. Mais du coup, ça a aussi davantage échapper aux syndicats parce que pris voilà dans ce mouvement de campagne électorale européenne, etc. Et donc du coup la concurrence syndicale a été beaucoup plus forte, voire même la surenchère du coup a parfois pris le pas pour arriver en fait à maintenir la mobilité, la projection des médias vers chaque syndicat.
Mmh. François Purcell.
Et puis, on peut rajouter aussi un élément, l'agriculture n'est plus simplement une affaire de co-gestion, une affaire d'État, c'est aussi une affaire de société, hein, c'est ce que nous avons écrit avec Bertrand Hervieux et puis récemment avec Blandine Ménel. On se rend bien compte que de nouveaux protagonistes interviennent dans le champ de l'agriculture, que ce soit des ONG, que ce soit les voisins de ces agriculteurs. Finalement...
Elle est devenue une question sociale, sociétale.
Elle est devenue une question sociale parce que, et c'est ça le grand paradoxe, et c'est peut-être ça aussi le drame de l'agriculture française et européenne, parce que moins il y a d'agriculteurs, moins les Français sont issus finalement de ces mondes, plus la question agricole revient sur la table avec une force sans précédent parce qu'elle cristallise des enjeux forts. Et ce qui est très intéressant quand même à souligner, c'est que finalement les agriculteurs ont obtenu une chose, c'est la mise à l'agenda de la question agricole. Et ça, c'est une victoire pour toutes les organisations syndicales agricoles.
Alors justement, plongeons-nous dans les paroles des premiers concernés. Je vous propose d'aller dans le Lot-et-Garonne. Laura est maraîchère et elle se dit elle-même néo-paysanne. Elle est en train de lancer une production de porc gascon, une race traditionnelle du Sud-Ouest en plein air, avec un laboratoire de production, mais n'a pas les moyens de passer en bio. Elle va nous l'expliquer. Dans son département, c'est la coordination rurale qui dirige la chambre d'agriculture.
En ce qui me concerne, le problème dans le 47, c'est qu'on a une chambre agricole donc, qui est représentée par un syndicat très engagé, qui n'est pas du tout apolitique et qui clairement revendique ses revendications politiques à l'extrême droite. Et du coup, j'ai du mal à croire, ou en tout cas, j'ai pas envie d'être représentée par des gens qui ont ces idées-là, en fait, tout simplement. De dire haut et fort que le problème principal des agriculteurs, c'est les écologistes, parce que c'est un discours qui revient souvent. Et puis en fait, on le prend pour nous, parce que quand on est néo-paysan, qu'on veut s'inscrire dans une agriculture que j'appelle progressiste, où on veut plus de petits agriculteurs, on veut plus de petites productions, alors si on est plus nombreux, on peut faire des choses meilleures. On peut pas être représenté par des gens qui pensent qu'il y a des gens moins bien que d'autres.
Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été en bio au vu de cette pensée politique et de ces valeurs que vous portez?
On espère que sur du long terme, tout sera en bio sur notre ferme. Il faut savoir que tout ce qu'on va utiliser sera issu de l'agriculture biologique, tout ce qu'on peut au maximum. Mais être certifié bio, ça veut dire que c'est payer une certification. Donc c'est payer pour dire qu'on essaie de faire les choses bien. Et ça, c'est quand même un gros sujet aussi à soulever. Et il y a aussi que l'alimentation, donc nos porcs, ils sont en plein air, mais on les nourrit aussi une fois par jour. Et que du coup, le bio est beaucoup plus cher que le pas bio. Et que du coup, notre coût final serait trop élevé aujourd'hui pour en vivre, en fait, tout simplement. Je crois qu'aujourd'hui, la colère agricole, il faut l'entendre et elle est réelle. Je pense qu'aujourd'hui, vivre de son activité agricole, c'est très compliqué. Nous, on n'en vit pas encore. Et il faut le dire, en fait, tout simplement. Il faut dire que quand on choisit ce métier, c'est très compliqué. On le fait pas pour l'argent, mais si juste on pourrait vivre décemment, ce serait bien. Et je crois que c'est ça la colère numéro un. Je crois qu'aujourd'hui, le problème principal de l'agriculture, c'est pas les écologistes. Hein. Le problème principal, c'est les multinationales, c'est le libéralisme et c'est les prix bas et la concurrence déloyale. C'est ça aujourd'hui le discours qui devrait être présent partout et numéro un dans tous les syndicats agricoles, quoi.
Voilà, on vient d'entendre Laura, donc qui est maraîchère dans le Lot-et-Garonne, et je vous propose désormais d'aller dans l'Ain. Philippe est éleveur laitier en bio depuis 6 ans, après avoir été en conventionnel pendant 30 ans, et lui, il se dit très indécis.
Bon, on connaît l'importance des chambres d'agriculture puisque c'est les référentes de nos territoires. Donc c'est important pour nous de voter, bien sûr, mais je pense que c'est la première année où... Depuis toujours, j'ai toujours voté. Là, je voterai encore, mais je suis très indécis quant à mon choix de liste. Alors, est-ce que c'est dû à mon âge ou est-ce que c'est dû à l'environnement agricole? On voit bien dans les revendications des manifestations de l'acte 1 et de l'acte 2 avorté que on n'est pas clair nous-mêmes sur ce qu'on veut. L'agriculture est très diverse. Je crois qu'il y a des propositions intéressantes dans toutes les listes, mais ce qui manque le plus, c'est un vrai... plan Marshall de l'agriculture, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des, à mon avis, pas faire des petites rapiessages et demander des revendications symboliques, même si elles sont importantes, mais avoir une vraie vision à terme en intégrant, à mon avis, trois dossiers. Le changement climatique, alors qui est un peu mal vu ces temps-ci. La mondialisation, de toute façon, on n'y pourra rien. On est un petit pays qui représente, qui a moins d'importance en Europe et dans le monde. Et la troisième chose, c'est la fin d'une époque, je dirais merveilleuse, hein, puisqu'elle a, elle a atteint ses objectifs d'une agriculture qui a nourri les gens en quantité et en qualité pas chère, et on est peut-être victime de notre succès. La nourriture est un bien presque banal. Donc, il faudrait un vrai plan Marshall pour donner des directions, définir un vrai programme pour les 20 ans qui viennent, pour donner de la lisibilité à ceux qui investissent, aussi bien dans l'agroalimentaire que dans les exploitations, puisqu'on est fortement liés. Quand il n'y a plus d'industrie agroalimentaire, il n'y a plus d'agriculture. Voilà, on est plutôt dans des luttes, la FNSEA, c'est pas bien, l'accord d'Ifrion Rural, c'est ils manifestent, mais ils savent pas pourquoi, et la conf, ben, ils veulent pas trop produire, voilà, donc je schématise, évidemment, mais c'est ce que je ressens un peu. Il y a aujourd'hui peut-être 80% des gens en bio repartent en conventionnel, c'est ce qui se passe, hein. Il y a beaucoup de questionnements dans les fermes, avec des convictions fortes, hein, pourtant, sur la pertinence du bio. Mais si on veut éviter que tout le monde reparte en conventionnel, il faut vraiment donner un signal et aider, parce qu'on n'arrivera pas à passer les crises comme ça, quoi.
Voilà, Philippe Morin, éleveur laitier dans l'Ain, qui nous dit qu'il faut un plan Marshall et que finalement, tout ceci est pas très clair. Alors, on a effectivement la coordination rurale. Laura nous dit qu'ils sont clairement liés à l'extrême droite. La FNSEA, qu'on dit être en co-gestion avec les gouvernements successifs depuis quasiment l'après-guerre. La conf qui veut pas produire. Et là-dedans, des agriculteurs qui semblent, François Purseigle, extrêmement perdus.
Oui, perdu, parce qu'il manque un cap dans cette agriculture française. En fait, on a non seulement un État français qui a du mal à proposer ce cap, ce projet, cette ambition politique, et puis les agriculteurs eux-mêmes sont fragmentés, ne
sont pas
d'accord.
Oui, parce qu'on voit bien qu'il y a des chocs de vision, il y a des modèles.
Bien entendu. D'un côté, on a un pôle éco-socio-alter qui réclame d'être reconnu politiquement pour les changements accomplis, passage en bio, etc., qui cherche à être soutenu, bah parce que la valeur n'est pas toujours au rendez-vous. Les autres en face qui cherchent à être reconnus sur le plan identitaire et cherchent à défendre un métier qu'ils ont toujours exercé en famille, et puis d'autres qui cherchent à être reconnus.
C'est la coordination
rurale. Alors ça peut être la coordination rurale, ouais. Mais ça peut être aussi des jeunes éleveurs, notamment, qui vont s'abstenir demain ou qui vont se déporter sur des groupes autonomes. Et en face, on a également des agriculteurs mieux dotés économiquement, parce qu'il y en a qui cherchent à être reconnus économiquement avant tout et cherchent à conquérir des marchés. Donc, quand on a une telle tripartition de l'espace idéologique agricole français, c'est beaucoup plus compliqué pour les agriculteurs eux-mêmes de dire finalement à l'État bien ce qu'ils veulent. C'est difficile pour l'État de proposer aussi des solutions. Puis il y a des solutions qui ont été quand même apportées. On peut pas dire que rien n'a été fait. Et puis, les Français eux-mêmes ne savent pas forcément ce qui se joue dans les exploitations aujourd'hui. Et les Français sont très ambivalents aussi quant à leur rapport à l'agriculture et aux agriculteurs. Là aussi, je pense que on est tous co-responsables finalement de cette situation.
Véronique Lucas, on a entendu beaucoup de choses dans ce que nous disent Philippe Morin et Laura. Il y a toutefois cette idée, en fait, du choc de modèle, du choc de vision, cette tripartition, voire même plus large, dont nous parlait François Purseigle. J'ai presque le sentiment d'une petite société telle qu'on est en train de la vivre au niveau national, mais au niveau de la corporation des agriculteurs.
Oui, et puis il y a aussi le fait que là on est dans un contexte où on s'interroge sur le positionnement des agriculteurs en cette période électorale qui désigne les représentants aux chambres d'agriculture. Et en fait, les chambres d'agriculture sont un organisme d'importance très variable d'un territoire à l'autre. Elles ont acquis un certain nombre de fonctions qu'elles jouent aujourd'hui à la fin des années 50, début des années 60. Dans ce paysage-là, il y avait déjà des organisations qui existaient, en particulier, par exemple, dans le secteur viticole. Le secteur viticole, du coup, va être moins intéressé par les chambres d'agriculture, va se sentir moins concerné parce qu'il a tout plein d'autres organisations. Et en fait, il y a aussi ça qui joue, c'est-à-dire que suivant les productions, suivant les territoires, il y a une diversité d'organisations et dans lesquelles les agriculteurs aussi s'engagent. Et du coup, ça se joue très différemment quand on est en viticulture où on est ce qui se joue, c'est l'échelle de l'appellation, parce que c'est là que se décide, se pense les stratégies des productions, de communication, de marché. Alors que dans d'autres coins, ça va être plus propice, par exemple, au circuit court, notamment à proximité des zones touristiques ou des bassins de consommation urbains. Et donc, c'est une autre réalité qui vont se jouer, d'autres types d'organisations comme les magasins de producteurs, les ateliers de transformation pour pouvoir transformer les produits à faible coût, etc. Donc en fait, on est aussi face davantage à des configurations locales aussi qui sont très différentes d'un territoire à l'autre.
Et ce que vous nous dites alors, c'est qu'en fait, les chambres d'agriculture ne représentent pas, enfin n'ont pas les mêmes missions d'un territoire à l'autre, et qu'il y a là aussi une fragmentation des opérateurs. À quoi elle sert, une chambre d'agriculture ?
Alors en fait, elles ont, on va dire, deux missions principales, qui est d'accompagner les agriculteurs dans un certain nombre de leurs démarches, qui peuvent être techniques, économiques, administratives, réglementaires. Par exemple, pour un permis de construire en zone agricole, bon, bah, les réglementations peuvent être diverses suivant là où on se situe, donc elles peuvent aider à se repérer dans ce maquis réglementaire. Et puis elles ont une représentation en fait des intérêts des acteurs vis-à-vis des pouvoirs publics. Et ça, du coup, suivant qu'on est un secteur qui a beaucoup un secteur productif dans lequel il y a beaucoup d'interventions publiques, là du coup elles peuvent avoir un rôle, mais dans des secteurs où en fait l'intervention publique est très faible, je pense par exemple au maraîchage. Bah du coup ce rôle de représentation des acteurs vis-à-vis des pouvoirs publics a très peu d'importance. Donc ça va se jouer différemment de ce fait d'un territoire à l'autre.
Mmh. Et ce qui veut dire qu'en fait, là, il y a aussi, on a vu des opérateurs, on pense notamment aux coopératives, qui sont venus aussi offrir des services quand les chambres d'agriculture, parfois dominées par des forces politiques qui n'adhéraient pas à un projet, on pense notamment le maraîchage bio, etc. Certains agriculteurs ont été trouvés des solutions et un support ailleurs.
Oui, les coopératives ont des missions de développement agricole, mais pas que. On a des coopératives d'utilisation de matériel en commun qui ont des missions aussi de développement agricole. Et puis, il faut pas oublier une chose, on a une population agricole qui est beaucoup mieux formée, voire même très bien formée, et qui
on pense à Laura qui est ingénieure agro.
Exactement. Et puis, ils sont pas forcément ingénieurs agro, mais ils peuvent venir aussi d'écoles de commerce, ils peuvent venir de formations littéraires. Bref, ils arrivent avec des bagages de formations très, très différentes. Et donc, ils impulsent aussi de nouvelles dynamiques à l'échelle de leur propre structure d'exploitation. Et certains peuvent se passer ou vouloir se passer de ces organisations professionnelles qui ne sont pas forcément connues par les nouveaux venus dans la profession. Donc, il sera important aussi de regarder finalement comment vont se comporter ces nouveaux venus dans la profession. Et on sait que dans certains départements, eh bien, ils comptent parce qu'ils font évoluer aussi les structures d'exploitation. Et puis, ces élections en chambre, elles se jouent aussi finalement au regard de l'offre de services qui a pu être déployée par les équipes en place. Donc il y a forcément une prime au sortant parce que on va voter aussi pour eh bien des élus qu'on connaît plus ou moins, des ingénieurs aussi qui ont répondu aussi à des attentes, parce que les chambres d'agriculture, ce sont aussi des cadres, des techniciens, des ingénieurs, des salariés qui sont sur le terrain et qui s'emploient aussi avec les moyens du bord à trouver des solutions, et c'est pas évident pour eux.
Oui, parce que typiquement c'est quelqu'un qui va vous appeler en disant j'ai un problème sur la taille de mes arbres, j'ai un problème de d'irrigation, je ne sais pas quoi utiliser parce que j'ai eu telle ou telle maladie. C'est des cas aussi concrets.
Oui, par exemple, typiquement, un agriculteur qui est victime du changement climatique, qui cherche à diversifier ses productions, il peut se tourner ou vouloir se tourner vers une chambre d'agriculture pour que bien les ingénieurs ou les techniciens des chambres puissent l'accompagner dans ses projets de diversification. Et c'est pas évident parce que les chambres sont pas forcément toujours bien dotées aussi financièrement dans certains territoires, et c'est compliqué aussi d'apporter des solutions. Or, on voit bien que finalement, l'agro gronde agricole. C'est une gronde qui repose, je l'ai dit, sur une quête de reconnaissance, mais c'est une gronde qui repose aussi, et je le vois bien sur le terrain, des attentes fortes en matière de solutions techniques. On a des agriculteurs qui, dans les réunions actuellement, disent on veut des ingénieurs, on veut des techniciens qui peuvent aussi nous apporter des compétences, des solutions techniques.
Mais ça, pour le coup, Véronique Lucas, je me tourne vers vous, c'est aussi le rôle d'une structure comme la vôtre, c'est-à-dire l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation, l'Environnement. Ce maillage-là, ce travail-là avec les chambres d'agriculture, est-ce que l'INRAE le fait ?
Oui, on travaille en fait avec toute la diversité de ces organisations, suivant aussi les questions qu'elles peuvent nous poser. Parce que c'est effectivement le propre de l'agriculture d'avoir en fait une richesse d'organisation de tout genre, technique, économique, et donc qui permet aux agriculteurs aussi de s'organiser ensemble pour trouver aussi leurs propres solutions, et c'est une réalité importante de ce métier.
Alors justement, replongeons dans ses paroles. Gaëtan Dubreuil-Jardin produit du lait bio depuis 25 ans en Ille-et-Vilaine et lui, il vote pour la Confédération Paysanne.
Produire du lait en agriculture biologique, finalement aujourd'hui, ça peut être très semblable à une autre agriculture, mais c'est très complexe puisque nous n'avons pas le droit à l'erreur, nous n'avons pas le droit au dopage de l'engrais, ni des pesticides et tout ça. Donc c'est tout dans la prévention. On aurait souhaité à une époque que les chambres d'agriculture s'imprègnent beaucoup plus de cette agriculture-là, qui nous rend un peu plus autonomes vis-à-vis de l'agribusiness. Mais malheureusement, les chambres d'agriculture n'ont pas forcément pris au départ cet angle-là. Je pense que les chambres d'agriculture devraient quand même se préoccuper du revenu des agriculteurs. Et malheureusement, nos représentants, qui sont parfois un petit peu aussi dans les coopératives et autres, ont du mal à se positionner en ce qui concerne les revenus des paysannes et des paysans. Moi, je me demande si, justement, il va peut-être pas y avoir plus de votes que la dernière fois, parce que, il y a un vote contestataire qui va s'exprimer. Peut-être que, on l'a vu, certains agriculteurs se manifestent. Je pense que les agriculteurs s'exprimaient pas, ils faisaient un peu confiance à leur syndicat, et puis, courbaient un peu les chines dans leur ferme. Aujourd'hui, on voit bien que c'est un peu plus explosif et je pense que certains, par le vote contestataire, vont peut-être voter. Et ça va être peut-être plus compliqué pour les syndicats qui sont présents depuis plus longtemps dans les organisations, qui vont peut-être être plus malmenés. Après, moi, je me dis que tous les jeunes agriculteurs, surtout les paysannes et paysans qui se sont installés sur des systèmes qu'on peut dire un peu alternatifs, j'espère qu'ils vont prendre leur bulletin de vote pour essayer de trouver des représentants qui vont les défendre aussi face à une agriculture qui est très industrielle et qui est un peu inéquitable actuellement au niveau des aides et tout ça.
Voilà, c'était Gaëtan Dubreuil-Jardin qui produit du lait bio en Ille-et-Vilaine. On est chez vous, Véronique Lucas, enfin pas loin de chez vous, vous qui êtes sociologue à l'INRAE Bretagne. Vous entendez ce que dit Gaëtan, ce vote contestataire, cette atmosphère plus explosive qui rend peut-être le scrutin encore avec de plus forts enjeux ?
Oui, très clairement. Et cette médiatisation, en fait, depuis un an, fait que il peut y avoir un enjeu nouveau autour de ces élections les dernières échéances électorales avaient montré plutôt une stagnation avec, FNSEA et Syndicat des jeunes électeurs qui totalisaient autour de 54% des voix depuis 2007 et Coordination Rurale et Confédération Paysanne 20% chacune. Donc ça, c'était un peu stable depuis 2007. Par contre, ce qui n'était pas stable, c'était la participation qui a sérieusement décliné et qui est passée en dessous de la barre de 50% lors des dernières élections de 2019. Donc cette médiatisation, elle peut provoquer un sursaut de participation. Mais elle peut aussi amener, comme on l'a entendu lors d'un témoignage précédent, aussi une expression désabusée, parce que cette concurrence syndicale, elle a aussi mis mal à l'aise et l'impression que les syndicats ont été plus centrés sur eux-mêmes que sur réellement les questions qui se posent aux agriculteurs. Donc ça va être assez différent et on voit bien par exemple en Bretagne c'est plutôt des départements qui sont en dessous des 50% aux dernières élections. Donc on va voir si effectivement cette médiatisation va provoquer plus de participation cette fois-ci.
Ce qu'on entend aussi, François Pursaigle, c'est à la fois Laura qui le dit, Gaëtan, enfin tous nos interlocuteurs, Philippe, que la question en fait du salaire, de la capacité en fait à vivre dignement, elle est absolument centrale. Oui. Est-ce que c'est le rôle d'une chambre d'agriculture ? Est-ce qu'elle peut aider là-dessus ?
Elle peut accompagner finalement ces familles, ces agriculteurs dans l'amélioration des conditions de vie. C'est ça le développement. C'est passer d'un état A à un état B. C'est trouver des solutions pour aller chercher la valeur à travers la diversification, l'évolution des ateliers de production, etc. Mais tout ne dépend pas des chambres d'agriculture qui ont un rôle et une mission, ça a été rappelé, de conseil, d'accompagnement, de représentation professionnelle. On peut pas tout attendre d'une chambre d'agriculture, des chambres d'agriculture. C'est que c'est clair. Il est important aussi de souligner, et on l'a bien vu dans une enquête qu'on a réalisée à Sciences Po Paris avec Pierre-Henri Bonneau, que finalement les agriculteurs font partie des catégories sociales qui déclarent plus souvent que le reste de la population, et notamment que la population rurale, avoir des niveaux de revenus relativement faibles. Et ce qui est très intéressant aussi à souligner, c'est que alors que les ruraux et le reste de la société déclarent pas forcément toujours le fait que la vie qu'ils ont est insatisfaisante, chez les agriculteurs, on a une proportion plus importante d'individus qui déclarent être insatisfaits de la vie qu'ils mènent.
Mais alors là, moi, il y a un chiffre qui m'a marqué dans votre enquête. Le sentiment d'insécurité existentielle est très élevé. 37% des agriculteurs évoquent dans votre enquête un abandon et un système à bout comme principal moteur des mobilisations en cours. Ça veut bien dire, en fait, que... Et on se souvient aussi des chiffres absolument effarants de suicides dans la corporation. On est face aujourd'hui à un malaise paysan réel.
Un malaise paysan réel avec un acte ultime d'effacement qui est ce suicide aussi qui se rencontre dans bon nombre de campagnes aujourd'hui. Oui, les ressorts finalement de ce faisceau de colère qui a pu amener les agriculteurs à descendre dans la rue, quel que soit leur niveau de revenus, quelle que soit leur appartenance à des filières, tient essentiellement, et ça a été souligné par un interlocuteur tout à l'heure, finalement, à cette quête d'une juste rémunération. Mais cette juste rémunération, c'est pas la même chose quand on est à la CONF, quand on est à la CER ou à la FEDE. Et puis, oui, il y a la dénonciation d'un abandon. Pour certains, abandon de l'État, pour d'autres, abandon des industriels, abandon des consommateurs. Et on voit bien que cette gronde, c'est la gronde aussi de territoires agricoles qui sont malmenés. Cette gronde, elle est partie de territoires du Sud-Ouest dans lesquels,
sur lesquels vous travaillez, parce que vous suivez, je crois, dans une enquête, certains agriculteurs qui s'étaient mobilisés l'année dernière.
Ce pays de la résistance agricole qui a vu émerger aussi ce groupe des ultras autour de la figure de Jérôme Bail. Finalement, cette émergence de ce groupe en dit long sur des abandons qui sont aussi des abandons industriels. Parce que finalement, pour pouvoir être là demain, il va falloir aussi, et pour pouvoir développer des circuits courts, pour pouvoir transformer à la ferme, il faut pouvoir trouver des abattoirs. Il faut pouvoir trouver des boutiques, il faut pouvoir trouver aussi des consommateurs. Or, dans ces zones intermédiaires, on voit bien que finalement, la crise agricole repose aussi sur une crise de l'appareil industriel.
Vous écoutez Douce France par Nora Hammadi sur France Culture.
Gilda Saleno est agriculteur bio dans les Côtes d'Armor. Il produit des vaches allaitantes et des porcs bio, donc sur une centaine d'hectares. Il a été engagé longtemps au JA, le syndicat Jeunes Agriculteurs, et il vote toujours pour eux.
L'agriculture, elle ressemble à la société, je trouve. C'est de plus en plus clivé. Et les chambres d'agriculture, pour moi, restent un endroit où on peut réunir le collectif agricole, mais dans sa diversité. Pour moi, la chambre d'agriculture, et en plus des aspects techniques aux côtés des paysans, c'est d'abord un lieu du collectif. Pour ma part, après quelques années en conventionnel, je suis en bio depuis 7 ans. J'ai converti l'intégralité de mon exploitation. À un moment donné où, en France, on s'est un peu plus soucié de ce qu'on mangeait, et tout le monde était en recherche de produits plus naturels, plus qualitatifs, je suis un peu fâché avec ce citoyen-là qui à oublier ses envies et ses engagements. Mais aujourd'hui, je ne suis pas aveugle, il y a eu la crise d'Ukraine, il y a l'inflation. Mais l'intention du citoyen ne s'est pas transmise au panier du consommateur. Donc ils sont hébergés dans le même cerveau, ils sont assez schizophrènes. Et nous, on va voter pour les élections chambre, mais le consommateur et le citoyen lambda, ils votent tous les jours en faisant ses courses. Et aujourd'hui, par exemple, sur leur filière porcine bio, je crois qu'on aura perdu 40% des cochons en l'espace de 2 ans. Mais pour autant, moi, je reste persuadé que la bio a toute sa place et on est pas mal en France comme ça. Voilà. Pour vous donner une idée, pour monter un élevage comme le mien en bio, c'est 2 ans et demi. Donc, pendant 2 ans et demi, vous produisez plus, vous faites des travaux. Et au bout, quand vous commencez à vendre vos premiers cochons bio, le marché, il n'existe presque plus. Donc, j'ai plein de collègues qui ont arrêté la production. Je pense que l'agriculture bio, elle va continuer, elle va évoluer, mais j'espère qu'elle ne sera pas trop oubliée dans le cadre des élections chambres. Voilà, c'est aussi un point sur lequel moi je suis vigilant.
Voilà, c'était Gilda Saleno dans les Côtes d'Armor. Cette fois-ci, on va vers la Drôme provençale. Véronique Bosse-Platière produit des abricots et des olives en conventionnel. Et elle vote FNSEA. Elle fait régulièrement appel à la Chambre d'agriculture, par exemple, pour l'aider dans la taille de ses arbres ou sur des questions d'irrigation.
Je vais voter pour la FNSEA parce que je connais les gens qui nous représentent, qui connaissent très bien leur métier et qui ont la mesure de la complexité de l'agriculture aujourd'hui, c'est-à-dire qui sont dans le souci de la prise en compte du dérèglement climatique, de la prise en compte des enjeux environnementaux, et à la fois qui ont le souci de la production, de nourrir la population et d'offrir des produits sains, bons, français, et répondant à toutes les normes. Même si ce syndicat a l'image de représenter les gros, alors que je suis une petite, je pense qu'il représente aussi une multitude d'agriculteurs et dont je fais partie. Il y a encore une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, les arboriculteurs vivaient bien de, par exemple, de l'abricot ou de l'olive. Ils pouvaient avoir du gel printanier, hein. Ça, c'était occasionnel. Et maintenant, ce gel printanier arrive chaque année. Et lorsqu'on arrive à faire de la lutte anti-gel, maintenant on est confronté à des orages de grêle. Ce qu'on avait pu sauver du gel, nos abricots ont été dévastés par la grêle. Donc effectivement, on est confronté à des événements qui avaient peu lieu il y a encore une vingtaine d'années ou une dizaine d'années. Donc il faut qu'on s'adapte. Et là, on recherche, on remodèle, on fait de nouvelles plantations, on recherche des variétés qui sont plus adaptées à ces nouvelles températures. C'est pas simple, parce qu'on n'a plus la production qu'on avait autrefois. Moi, j'ai une partie de ma production que je vends en vente directe, mais qui est encore à développer, mais mes abricots, quand ils me sont achetés à un tout petit prix et qu'ils sont revendus largement plus cher ailleurs, ça dépasse pas mon coût de production, je m'y retrouve pas et je peux pas en vivre, je peux pas en tirer un salaire. Ou alors, quand je vais vendre mes abricots qui sont un peu touchés à 15 centimes il y a 2 ans, mes abricots qu'on dit des abricots industriels m'étaient achetés 15 centimes le kilo, pour faire des confitures, pour faire des nectars que vous allez acheter très cher en supermarché, à 15 centimes le kilo, moi je ne peux même pas payer mes cueilleurs. C'est une réalité, le Mercosur, si le consommateur ne prend pas conscience qu'il faut acheter local, local et faire vivre ses agriculteurs en France, on va avoir de réels soucis, oui.
Voilà, c'était Véronique Bosse-Platière, donc dans la Drôme provençale. Véronique Lucas, on entend beaucoup de choses. Alors déjà, contre toute attente, Gilda Saleno, il est producteur bio et il vote pour les jeunes agriculteurs. Et Véronique Bosse-Platière, elle est petite productrice, mais elle vote FNSEA. Je dis contre toute attente parce que dans nos représentations, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Ça veut dire que là aussi, la diversité du bulletin de vote, elle n'est pas liée en fait à une affiliation juste partisane ou politique, ou dans un schéma droite-gauche, mais c'est bien plus complexe que ça.
Tout à fait. En fait, François le disait en début d'émission, on est sur des professions, moi je parle d'hétérogénéité en fait, très forte au sein de l'agriculture, et en fait, chaque syndicat a aussi une base sociale hétérogène. Et donc, on voit qu'il y a une tendance, du coup, là, dans un contexte électoral où il s'agit d'être le premier en termes de voix pour avoir la majorité des sièges, qu'on est dans un scrutin très majoritaire. Donc il faut du coup aller au-delà de sa base sociale et convaincre l'électorat potentiel qui lui est hétérogène. Et donc du coup on va avoir un choix de messages, de sujets qui vont être les moins clivants par rapport à cet électorat potentiel pour rejoindre une hétérogénéité. Et parce que effectivement, l'agriculture est hétérogène, et y compris les bases sociales de chaque syndicat qui sont loin d'être uniformes. Et donc, on voit bien qu'il y a des tiraillements à l'intérieur de chaque syndicat à l'occasion de leur congrès pour décider du message pour pouvoir du coup ne pas cliver au sein de cette hétérogénéité.
Et on voit aussi, hein, Véronique Lucas, que les enjeux auxquels ils doivent faire face sont absolument phénoménaux. Enfin, quand Véronique nous parle du changement climatique, de la grêle, du prix aussi auquel on achète ses fruits et de sa production qui a baissé, quand on parle du Mercosur, quand on voit la réalité aussi du revenu, la PAC qui a été votée à nouveau il y a quelques mois du côté européen et qui est toujours considérée comme étant donnée à l'hectare et non pas au nombre de personnes qui travaillent sur l'exploitation. Enfin, est-ce que vous pensez véritablement que les chambres d'agriculture vont pouvoir régler ces questions, ou est-ce que là on est vraiment dans des logiques de modèle ?
En fait, ce qui est déterminant aujourd'hui dans le quotidien des agriculteurs, c'est davantage la politique agricole européenne, comme vous venez de le dire, et les marchés, et donc les opérateurs économiques, en particulier ce qu'on dit d'aval, c'est-à-dire ceux qui collectent les productions, les transforment et les vendent et les distribuent. Et donc effectivement, par rapport à ces facteurs prépondérants qui structurent les conditions professionnelles, les chambres d'agriculture, elles apparaissent assez mineures en fait dans ce paysage. Après, il ne faut pas oublier que des scores que vont faire chaque syndicat à ces élections-là, ça va déterminer leur représentativité nationale, les fonds publics auxquels ils vont pouvoir prétendre, qui servent à financer les syndicats agricoles, et aussi quelquefois, enfin leur poids aussi, chaque gouvernement fait aussi avec les syndicats et suivant leur poids. Et donc du coup, si les scores changent, ça va aussi
rebattre un peu les cartes, ouais.
Voilà. Et donc il y a aussi ça qui se joue derrière ça. Et effectivement, il y a aussi un autre déterminant qui est le climat. Et là, c'est vraiment quelque chose qui dont on a pris encore plus la mesure sur 2003-2024. Donc ce que disait votre témoin tout à l'heure, le gel, la grêle, ça c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps déjà maintenant, les viticulteurs et les arboriculteurs, ils subissent le changement climatique depuis longtemps. Mais par contre, il y a tout plein d'autres pans de l'agriculture qui ont découvert depuis fin 2003 un autre conséquence du changement climatique, enfin deux autres conséquences du changement climatique, l'excès de pluie. Et ça, on ne s'y attendait pas vraiment. La sécheresse, c'était quelque chose qui était intégré. Mais le fait que ça puisse être aussi de l'excès de pluie aussi longtemps, ça n'avait pas forcément été expérimenté. Et du coup, ça a été une découverte et qui a quand même bousculé beaucoup le travail des agriculteurs sur, on va dire, les deux tiers nord de la France depuis fin 2023. Et l'autre chose, c'est les maladies animales. Donc, il y a eu un développement de deux maladies, donc les SCO et MHE, et qui sont dues en fait aux effets du réchauffement climatique, qui a donné en fait des conditions plus propices au développement d'un insecte vecteur qui était avant sur la zone africaine et qui est du coup remonté sous nos latitudes.
Donc on voit bien effectivement que les enjeux sont absolument colossaux, notamment ceux qui sont liés au dérèglement climatique. Mais François Pursaigle, là-dessus, on entendait la mondialisation, la concurrence internationale, le Mercosur, le dérèglement climatique, la question, on n'en a pas parlé jusque-là, mais aussi de la transmission des terres agricoles. Objectivement, les enjeux sont colossaux. On est vraiment dans des logiques de modèle. Et finalement, la question agricole est percutée par un changement de modèle, mais qui est celui qui percute nos sociétés tout entières.
Oui, et puis je pense qu'on assiste bel et bien à la fin des modèles en agriculture, et on assiste bel et bien à la fin du modèle de cette exploitation auquel on tient tant en France, cette exploitation familiale qui est bousculée par, on vient de le dire, cette crise de la transmission qui ne va pas de soi, parce que dans les familles elles-mêmes, en agriculture, installée ne va pas de soi. On voit bien également qu'on n'a plus de modèle, mais qu'une seule politique agricole ne peut pas répondre à une multitude d'attentes. C'est pas avec une politique agricole européenne qu'on va répondre à une crise de reconnaissance identitaire ou de reconnaissance politique.
Du moins, oui, mais c'est plus compliqué. On voit bien que c'est pas non plus les chambres d'agriculture qui vont pouvoir régler ce problème, mais c'est quand même un problème politique.
Oui, mais qui relève de politique sociale, qui relève de politique territoriale, qui relève de politique industrielle. C'est pour ça que tout à l'heure je disais l'agriculture c'est l'affaire de toutes et tous. Et là, il y a un enjeu finalement à relocaliser aussi la perception que l'on a, l'accompagnement que l'on peut faire aussi de ces agricultrices et de ces agriculteurs à l'échelle des territoires. Donc il y a un enjeu à ce que l'État regarde aussi de près finalement l'état de ces territoires. Et ça, ça va plus de soi.
Deux blocages en mobilisation, ces élections dans les chambres d'agriculture montrent l'importance de la bataille aussi des images pour les agriculteurs. Bonsoir Antoine Dulster.
Bonsoir Nora, bonsoir à tous.
Dans votre chronique cette semaine, vous vous penchez sur les représentations du monde agricole dans un registre très particulier, celui de la littérature paysanne.
Oui Nora, puisqu'au-delà des récits sur les campagnes, ce sont les récits issus de la ruralité qui ont forgé en grande partie nos représentations du monde paysan. La figure de l'écrivain paysan est donc essentielle depuis que le premier d'entre eux, Émile Guillaumin, a publié son roman culte en 1904, La vie d'un simple, chronique de la vie d'un paysan métayer au 19e siècle. D'autres grands noms lui succèdent pour créer une vision de la ruralité très austère, presque sacrificielle, comme ici Jean Robinet qui avait publié Compagnons de labour en 1964.
Parce que les paysans sont de grands silencieux, ils vivent à l'écart, dans leur terre, dans la nature. Ils ont une certaine faculté d'adaptation à la misère. Je crois que ça vient de très loin, voyez-vous. Moi, j'estime qu'il y a des valeurs exceptionnelles à la terre. Cette possibilité, étant sur Solopin, de dire 5 lettres même à tout le monde, et éventuellement au ministre, il n'a rien à voir. Chacun, le paysan est un créateur, il organise sa terre à sa façon, il sème comme il veut. Voyez-vous, c'est lui qui en subira seules les conséquences. Et il n'a pas de maître, sinon les éléments. Alors devant les éléments, on ne se rebelle pas.
Mais cette vision de la vie paysanne d'antan ne résiste pas aux transformations du XXe siècle. Les écrivains continuent de faire la chronique d'un monde qui s'efface, tandis qu'un sociologue, Henri Mindras, évoque carrément la disparition d'une civilisation dans un ouvrage publié en 1967, La fin des paysans.
Mon argument en tant que sociologue qui s'oppose aux économistes n'est pas la fin des agriculteurs à l'heure actuelle, c'est au contraire la fin de ce genre de vie qui, quant à moi, me paraît certainement inéluctable. C'est bien que même si nous conservons une population agricole très nombreuse, ce qui ne me paraît pas exclu, nous n'aurons plus de paysans au sens traditionnel du terme, et ça est une transformation radicale, je crois, dans la civilisation française et même dans la civilisation occidentale.
Un monde s'évanouit donc ces années-là, mais les écrivains paysans continuent de mettre leurs mots sur ces nouvelles réalités et cette ruralité qui lutte désormais pour ne pas mourir. En 1975, Jean-Louis Kéréillac en parlait dans cette interview mise en musique par Edith Lansac.
L'écrivain paysan est un témoin de son temps. Il ne s'agit plus d'écrire comme Eugène Leroy ou comme Guillaumin ou comme Morette, qui sont d'excellents écrivains et qui pour nous sont une certaine noblesse de plume qui nous a précédés. Mais à l'heure actuelle, je dis l'écrivain paysan, c'est un témoin. Il est témoin d'un combat, il est témoin d'un drame, il faut que ça passe dans son livre.
L'exode rural s'achève, comme cette chanson d'ailleurs, et de nombreuses campagnes font face à l'hiver démographique qui devient à son tour une source d'inspiration. C'est en tout cas ce qu'en dit Marie-Hélène Lafont au micro d'Alain Weinstein en 2009, au moment de la parution de son roman L'Annonce, encore une chronique de la vie rurale.
J'aime assez à dire que j'écris des livres comme on travaille la terre. La langue, c'est du terreau, c'est du matériau verbal.
Vous labourez tout ça ?
Voilà, je laboure tout ça. Oui, oui.
Vous parliez de creuser le vide tout à l'heure.
Oui, oui, creuser, donc creuser le vide, donc creuser le sillon.
Il y a beaucoup de silence dans vos textes.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ce silence ?
C'est le silence d'où je viens.
Le silence de la terre, ou de ceux qui la travaillent ?
Les deux. Le silence des choses.
Ce silence des choses n'empêche nullement la réappropriation contemporaine des grands textes d'écrivains paysans, à commencer par ceux d'Émile Guillaumin, que l'écrivain Bernard Farinelli fait rééditer dans les années 2000, non par passéisme, mais au contraire pour en célébrer la modernité.
Il est écologique avant l'heure, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, à travers sa parole paysanne, nous montre ce qu'on est devenu et ce qu'il aurait fallu ne pas devenir. En clair, on parle de terroir, on parle de pays, on parle de bocage, on parle de toutes ces choses qui nous constituent, qui sont véritablement nos racines. Et l'avantage de Guillaumin, c'est qu'il nous montre en termes de modernité. Il y a absolument rien de passéiste dans son message.
Alors, François Pursaigle, il était normal que les récits sur le monde paysan évoluent avec la fin d'un certain monde paysan ces dernières décennies. Est-ce que les combats actuels des agriculteurs ont un déficit d'incarnation ? Et est-ce qu'il faudrait, pour le dire aussi de cette manière-là, un nouveau Guillaumin pour incarner ces luttes, justement, et montrer ces luttes ?
Difficile à dire, puisque Guillaumin est le produit d'un territoire, le Bourbonnais, le produit d'une histoire, celle aussi de ses métayers qui... non seulement devait raconter la vie rurale de l'époque, mais se prendre en main, puisque les écrits d'Émile Guillaumin, ce sont des écrits d'un paysan romancier, mais aussi d'un syndicaliste qui décide aussi finalement de s'émanciper de la tutelle aussi des bourgeois, des aristocrates. C'est aussi ça, l'histoire de Guillaumin. Et on voit bien derrière le combat de certaines figures médiatisées, comme celle de Bayle dans la Haute-Garonne, eh bien, il y a cette volonté chez certains, alors avec leurs mots, leurs codes de 2025, eh bien, finalement, de se reprendre en main. On entend aujourd'hui dans les campagnes, il faut rester la tête droite. On va pas se laisser faire. Et donc, on retrouve ces accents à travers notamment la compréhension de ces mouvements autonomes qui se mettent en place aussi dans les campagnes françaises actuellement.
Alors, Véronique Lucas, dans les livres de tous ces écrivains dont nous entendions des archives il y a quelques instants, ces écrivains paysans, la conflictualité est partout dans les rapports, par exemple, entre propriétaires et ouvriers agricoles. Donc, on voit que les campagnes ont changé, mais elles demeurent des espaces conflictuels d'une génération à l'autre.
Oui, mais il y a aussi une manière, c'est-à-dire que localement, les acteurs peuvent être effectivement en conflit, en concurrence, tout simplement parce que quand il y a un hectare de terre qui se libère, plusieurs peuvent être intéressés. Et en même temps, au niveau local, ces acteurs ont aussi besoin de collaborer, de coopérer, par exemple quand ils ont du matériel en commun parce que ça participe de diminuer leur charge d'investissement. Et il y a aussi des formes de silence tacite pour arriver quand même à collaborer malgré ce qui nous différencie ou malgré ce qui peut nous mettre en concurrence. Et j'observe aussi, donc il y a des silences, on évite certains sujets, des périodes où on se parle moins, puis on attend que le temps passe. Et ce que je note aussi, c'est l'humour comme manière aussi de se parler pour éviter les sujets, mais on sait bien qu'ils sont là, donc la petite note d'humour peut-être qu'on n'est pas dupe aussi de tout cela, mais qu'on essaie quand même de faire avec et de collaborer.
Mais moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce qu'on vient d'entendre et que nous a proposé, et merci Antoine, c'est l'idée de silence, l'idée de vide et de misère qui revient de manière perpétuelle. Qu'est-ce que ça dit, François Pursec, de la vision et des imaginaires du monde paysan? Est-ce à dire que véritablement c'est un monde aride qui a toujours été aride et qui restera aride? Mais il y a quelque chose quand même d'extrêmement noir dans la manière dont on le perçoit et dont on le présente.
Oui, peut-être à tort. C'est vrai que la thématique de la mort est très très présente dans les revendications actuelles, dans les revendications syndicales, mais les revendications de ces agriculteurs qui étaient en manifestation. Cette idée que finalement c'est un monde qui est en train de mourir.
C'est le titre de votre livre, hein, Une agriculture sans agriculteurs, qui est aussi un clin d'œil à Henri Mandras, donc, qui signait La fin des paysans en 1967.
Oui, et qui signait un livre qui donnait à voir la fin d'une civilisation, parce que chez Mandras, ce qui fait le paysan, c'est l'appartenance en fait à la communauté villageoise. Et là, on est face à un nouvel effacement, un effacement qui se double d'un éclatement. Et on a cette rhétorique qui est très très présente dans le discours professionnel, dans le discours aussi des politiques qui ont tendance à s'approprier nos paysans, hein, disent-ils, à longueur de journée, alors même qu'on les connaît de moins en moins. Et ce thème aussi du silence renvoie de nouvelles façons de mener les actions à l'échelle des territoires ruraux. On voit des bottes de paille, des bottes enrubannées qui sont aussi le support de l'expression silencieuse d'un certain nombre de paysans, d'agriculteurs, notamment dans les campagnes du Sud-Ouest.
Mmh. Véronique Lucas, est-ce que vous voyez ça aussi du côté de votre Bretagne, une forme de nouvelle modalité d'action et cette idée de silence, de vide, qui renvoie à une forme de misère qu'on entendait aussi dans la chronique d'Antoine?
En fait, il y a aussi une forme de silence. J'entendais des agriculteurs qui, eux, estiment qu'ils ont plutôt des conditions réussies et qui, en fait, au cours d'une réunion agricole, avaient entendu beaucoup de leurs collègues faire part de choses plus difficiles et du coup qui disaient on n'a pas osé dire que nous, on va bien, qu'on prend pas mal de semaines de vacances et que on a plutôt l'impression de réussir notre métier. Donc il y a aussi une difficulté en fait à pouvoir dire que ça va bien face à des gens qui ont plus de difficultés. Il y a ça d'un côté, et puis de l'autre côté, j'ai entendu récemment des gens qui sont agriculteurs alors qu'ils sont pas issus du milieu agricole, et ils disaient on a du mal en fait à expliquer à ceux qu'on a côtoyés, avec qui on a grandi, qui sont pas de ce milieu-là. C'est quoi notre réalité, notre quotidien? Et donc ça, c'est assez difficile, mais c'est aussi parce que on a vu dans cette médiatisation depuis un an parfois des médias qui insistent justement sur les côtés misérables et qui peuvent renvoyer une image misérabiliste. Donc c'est difficile face à ces images puissantes distribuées par les médias de pouvoir dire ben non, c'est pas comme ça en fait partout chez tout le monde. Mais peut-être que ça donnera lieu à de nouvelles expressions, à de nouvelles écritures qu'on découvrira aussi de quelques années de ceux qui prendront les moyens parce qu'ils ont une particulière aptitude, est-ce que c'est littéraire, cinématographique, musical, pour rendre compte des réalités de leur métier et qui peuvent être aussi, il y a de belles histoires qui se passent en agriculture et dont certains pourront rendre compte dans quelques années.
Oui, donc finalement, travailler la diversité des récits au même titre que comprendre en fait qu'il n'existe pas un monde paysan, mais bien des mondes paysans, et que tout cela revêt une forme de pluralité extrêmement forte, et que cette vision-là peut être travaillée en 10 secondes. Cher François Pursac, je suis désolée.
Et les mondes agricoles ne sont pas qu'une pluralité de problèmes, mais une pluralité aussi de solutions.
Bon, bah écoutez, et je conseille votre livre « Une agriculture sans agriculteurs ». C'est co-signé avec Bertrand Hervieux, François Pursac. Merci d'être venu à nous.
Merci.
Depuis le Sud-Ouest. Véronique Lucas, depuis donc votre Bretagne, merci à vous. Je rappelle que vous êtes sociologue à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation, l'Environnement. Je le disais donc, jusqu'à la fin de la semaine prochaine, les agriculteurs sont amenés donc à choisir leurs représentants au sein des chambres d'agriculture. On a entendu beaucoup de choses sur la nécessité de peut-être interroger notre regard sur ce monde et sur cette profession qui finit aussi par interroger notre monde tel qu'il va, tel qu'il est. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast et à l'envi sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, commenter, réagissez par mail ou sur les réseaux sociaux. On vous lit, on vous écoute et parfois même on vous répond. Merci à Antoine Dulster qui a préparé cette émission, à Vanessa Nadjar qui l'a réalisé. C'était Ludovic Auger à la prise de son. Merci à lui. On se donne rendez-vous vendredi prochain à 20h. Et d'ici là, évidemment, très bon week-end sur France Culture.